matin, Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission, si par exemple vous nous écoutez depuis votre bain, puisque les chauffe-eau fonctionnent encore. À suivre, notre invité c'est Francis Weber, on parle de sa nouvelle pièce de théâtre, ça s'appelle Le Tourbillon, et je salue Héloïse Goy et Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Philippe, bienvenue chez vous.
Bonjour Héloïse, merci
bonjour Philippe,
d'accueil.
Bonjour à tous.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, et aujourd'hui vous êtes plongé dans une émission qui marche très bien, émission sur C8.
Oui, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai regardé William à midi. J'aimais beaucoup William L'Emergie dans Télématin, mais il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans son émission, c'était la notion de matin.
Ah oui.
Donc là, j'ai eu l'impression d'avoir Télémidi, qui correspond beaucoup plus à mon rythme biologique. Et j'ai retrouvé mon William, mais plus speed que jamais. Même dans la présentation du sommaire, il n'y a plus de transition.
Réponse avec notre avocat, Maître Roland Pérez. Moustique, guêpe et encore araignée. Vous adorez ça.
Non, il faudrait mettre des virgules quand même. Hein, car à un instant, j'ai cru que Roland Pérez aimait manger des moustiques et des araignées. Alors, c'est quoi le style William L'Emergie? Déjà, quand il écoute ses chroniqueurs, il s'intéresse vraiment. Prenez-en de la graine, Philippe. Vous qui préférez envoyer des sextos pendant ma rubrique. William, il est avec ses chroniqueurs, il leur parle. Enfin, pour être tout à fait honnête, il fait plus que parler. T'as l'impression qu'il les a pris en consultation et qu'il est médecin. Là, un de ses chroniqueurs lui parlait de voyage en montgolfière.
On a les pieds stables, par contre, voilà, on n'est pas ballotté dans le ballon.
Mais non, si vous vous penchez comme ça, vous avez...
Ah bah si vous penchez, vous faites très attention, ouais, ça fait un...
Non, mais vous avez le vertige quand vous penchez.
Ah moi, oui.
Mais sinon, non.
Mais sinon, non. Non, sinon, ça va, quand on regarde comme ça, ça...
D'accord.
Alors vous me prendrez un petit tanganil, hein, mais seulement pendant les repas. Au passage, le chroniqueur Yoann Latouche va nous parler de quelque chose de très risqué.
Dorian me disait, lui, c'est un jeune pilote, il fait pas ça depuis longtemps. Et il y a déjà eu plein de demandes en mariage, William, dans les montgolfières. C'est un endroit où on peut faire ça.
Voilà, donc si vous voyez des gens tomber des montgolfières, c'est certainement des gens qui ont répondu non à une demande en mariage. Quand t'es chroniqueur de William, t'as intérêt à bien maîtriser ton sujet parce que tu sais que le patron ne lâchera rien. Là, le nutritionniste de l'émission parlait des aliments qui nous permettent d'atteindre le plus vite la satiété.
Quand vous prenez par exemple un yaourt et un fromage blanc à égalité, c'est-à-dire ils ont la même valeur calorique, ben le fromage blanc va plus rassasier que le yaourt.
Voilà, ça me paraît clair.
C'est bien.
C'est pas l'extrait le plus drôle que j'ai mis dans l'histoire de cette chronique. On est d'accord, mais ça me paraît clair. Mais 2 minutes plus tard, William y revient.
Vous avez cité le fromage, redites-nous
oui.
ça.
Oui, alors vous prenez un fromage blanc, la même valeur calorique, c'est-à-dire 100 calories également, mais le fromage blanc va plus vous caler que le yaourt.
Bon, c'est toujours pas l'extrait le plus drôle de l'histoire de cette chronique, mais c'était important de le préciser. Mais William va insister.
Et oui,
fromage blanc, donc.
Et l'amande, c'est pareil.
C'est bien, c'est mieux.
Ben c'est mieux, parce que là, vous allez plus tenir si vous prenez un fromage blanc. Vous avez une petite
sinon, si vous
exemple,
prenez l'autre, le yaourt.
Prenez le yaourt.
C'est plus une chronique, c'est une garde à vue. À la fin, le nutritionniste ne savait plus où il habitait. Du coup, il a craqué. Il a dit ce qui était vraiment important pour atteindre la satiété.
C'est pour ça qu'il ne faut rien faire d'autre aussi en mangeant. Il ne faut pas des distracteurs d'attention, etc. Il faut manger vraiment en pleine conscience. Quand vous mangez, vous ne faites que ça.
Pas regarder la télé, quoi.
Faut pas regarder la télé, quoi. Dire ça pendant une émission diffusée à l'heure du déjeuner, je trouve ça très courageux.
T'as raison.
Et en même temps, il nous aide, hein, avec certains sujets.
Donc il y a cette constipation qui va devenir dure, cet amas de matière, ça va devenir dur, mais comme de la pierre, hein, et ça fait ce qu'on appelle un fécalome.
Un fécalome à 13h. Ouais. Moi, j'ai reposé mon endive au jambon, j'étais pas prêt. Mais c'est ça que j'aime dans William à midi, tu apprends des trucs. Pour une fois, un animateur se met à notre place. S'il y a une question à poser, il la pose. S'il y a une nouvelle technologie à nous faire découvrir, William nous prend par la main et nous explique.
Le wok. Le wok, très bien.
Moi, c'est bien ça.
Je suis favorable au wok.
Alors W-O-K, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez tous, oui.
Oui.
Le wok, le voilà. Hein. C'est une grosse poêle, si vous voulez, le wok. Poêle.
Bon, là, on a surtout découvert que William ne doit pas passer beaucoup de temps en cuisine. Hein, parce que le wok, c'est pas non plus la nouveauté de l'année. Nous, on est déjà rendu au wokisme. Hein, tu verras, c'est sympa aussi. Allez, bonne découverte à tous.
Merci beaucoup. J'en ai souviens plus du tout de l'info. 100 calories, yaourt, fromage blanc.
Voilà, il y en a qui.
Non, je déconne. Et le wok, votre indispensable aujourd'hui.
On va parler de Sissi avec une série qui dépoussière le mythe sur cette impératrice qui a déjà fait tourner pas mal de bobines. Hein.
Un nouveau Sissi donc.
Eh oui.
Stéphanie Loire aussi, des nouveautés, enfin des réarrangements.
Des reprises, covers, comme on dit en anglais. Et puis aussi une découverte électro.
Dans un instant, Francis Weber avec nous, on parle de sa dernière pièce de théâtre, Le Tourbillon, ça s'appelle, mais d'ailleurs, musique. M est la bassiste et chanteuse Gayle Anne Dorsey. Là aussi, c'est une cover. Ils reprennent le tube À Toi, tube de Joe Dassin sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Francis Weber.
Bonjour.
Légende du cinéma et du théâtre, metteur en scène, je pèse mes mots, également scénariste, entre autres du Grand Blanc avec Une Chaussure Noire, La Cage aux Folles. Vous avez enchaîné les succès au cinéma comme cinéaste. Je vais citer Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard, Le Dîner de Con. Si on ajoute tout, ça fait plus de 40 millions d'entrées au box-office. Et pourtant, vous dites que vous préférez le théâtre au cinéma. Vous avez notamment écrit ce qui était à la base une pièce, Le Dîner de Con. C'est juste pour situer le talent du personnage qui est avec nous aujourd'hui. Et votre actus, c'est donc une pièce écrite et mise en scène par vous. Ça s'appelle Le Tourbillon. C'est avec Philippe Lelouch et Catherine Amorino. C'est au Théâtre de la Madeleine. D'abord, quel est ce tourbillon? Quatre personnages, deux hommes, deux femmes. Qui sont-ils?
Il y a un flic brutal. Hein, l'actualité nous en offre quelques-uns. J'ai plein, parce que c'est terrible ce qui se passe. Hein. Et puis, il y a un journaliste dépressif.
Vous ne les plaignez pas, lui.
C'est pas ça, c'est que là encore, il y a un problème, si vous voulez, pour les journalistes, c'est que des gros groupes financiers rachètent leurs médias, et s'ils n'ont pas les mêmes opinions que le groupe financier en question, il y a de quoi déprimer.
C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Il y en a beaucoup qui partent avec des gros chèques aussi.
Ah, je sais, mais en tout cas, c'est terrible de perdre un média auquel vous êtes attaché.
À qui le dites-vous? Alors, quatre personnages, deux hommes, deux femmes, ce sont les deux épouses. Il y en a une qui est la sœur de l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a une qui est Aline Gaillot, qui est une comique, une vraie comique. Mmh. Et qui en plus est jolie, ce qui est rare, parce que chez nous, les comiques sont moins belles que Catherine Hepburn ou Marilyn Monroe.
Ouais. Hein? Attention, les féministes qui vous écoutent, elles ne vont pas aimer cette phrase.
Ben, je la retire. J'ai peur. J'ai peur de Sandrine Rousseau. Donc, il y a cette femme donc, qui ne réfléchit pas avant de parler, et Caterina Murino, qui est la femme du dépressif, que je croyais morte dans James Bond, donc à Casino Royale, et qui a ressuscité pour ma pièce.
Alors, qu'est-ce qui leur arrive et quel est ce tourbillon?
Ben, simplement, il y a le flic brutal qui décide d'essayer de soigner le journaliste dépressif. Et il a quelque chose qui fait peur. Il dit tout à coup à la femme du journaliste, laisse-moi lui parler. Moi, je te garantis que je vais le sortir du silence. Il y a un silence de dépressif. Et elle lui dit, oui. Et il dit, on en a fait parler plus d'un, crois-moi. On en a fait parler plus.
Il regrette l'époque des bottins, où on pouvait foutre un bon coup de bottin dans les omoplates sans laisser de traces.
Ouais, oui, bien sûr. Et l'autre dit, il n'y a plus de bottins dans les commissariats. Il n'y a plus que des ordinateurs. Et le journaliste qui se moque de lui dit, on ne peut pas donner des coups d'ordinateur sur la tête des détenus.
Vous faites justement une comparaison avec Le Placard, pièce signée par vous, dont vous dites, c'est une des rares pièces que j'ai écrites en m'appuyant sur l'époque, le film, pardon. Que dit le tourbillon de notre époque? Parce que c'est ancré dans la France de 2022.
Bah, c'est fantastique, parce que souvent, à la tragédie, et il y en a pas mal qui nous entourent là, bah, le ridicule fait face à la tragédie ou le pittoresque fait face à la... et même l'humour. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages maintenant dans l'actualité qui peuvent servir effectivement d'encrier pour les humoristes.
Par exemple.
Ah ouais, écoutez, je ne vais pas vous rappeler...
Sans donner les noms, mais...
Non, mais je ne vais pas vous rappeler les surmulots. C'est fantastique.
C'était quelqu'un à la mairie de Paris qui avait dit « Il ne faut plus appeler les rats des rats parce que ça fait fuir les touristes. On va les nommer les surmulots. » C'est authentique, c'est pendant une délibération officielle du Conseil de Paris.
J'adore, j'imagine des gars à l'opéra qui peignaient les petits rats d'opéra, qui peignaient les petits surmulots de l'opéra. Tout est fou. Et il y en a d'autres. Hein. Il y avait une sélatrice aussi qui a dit, ou une animaliste, je ne sais pas exactement, que les Noirs, il ne fallait pas les diffamer en disant qu'ils ont des sexes plus importants que les autres. Je ne demande pas mieux qu'à être diffamé dans ce sens-là, moi. C'est complètement fou, non?
Et quelque chose qui vous énerve, vous racontez ça aux Parisiens, c'était le 24 septembre dernier, vous dites, je me suis penché sur le grotesque qu'on trouve chez les ultras à droite et à gauche, et vous citez notamment Sandrine Rousseau qui prétend qu'on fait du virilisme avec le barbecue. Pourquoi? C'est une double question. Un, ça vous énerve. Deux, ça vous fait rire. Pour quelle raison?
Ben, ça m'énerve parce que quand ma pauvre femme qui fait la cuisine chez moi me demande de porter une tranche de viande sur le barbecue, j'ai pas l'impression d'être macho. Et je me dis, c'est complètement fou de dire une chose pareille. Et ça m'amuse parce que c'est complètement fou. Mais d'un autre côté, si vous voulez, on a découvert que quand même, en annonçant une ânerie comme ça, c'est un moyen, parce que tous les journalistes s'en emparent, parce que ça fait rire, de faire passer le message par en dessous, quelque chose de plus sérieux. C'est peut-être une tactique, une politique, si vous voulez.
Il y a aussi dans la pièce toutes sortes de considérations, mais sérieuses. Vous donnez des infos. Par exemple, j'aimerais savoir si elle est vraie ou si c'est une boutade, parce qu'on ne sait jamais trop avec vous. Un personnage qui fait remarquer qu'au goulag, parce qu'il y a un journaliste qui est dépressif, au goulag, les gens ne faisaient jamais de dépression. C'est vrai ?
Oui, mais il explique. Il dit, entre casser la glace et travailler dans les mines de sel... On n'a pas le temps d'être son lit comme une grosse feignasse.
J'ai compris. Mais moi, comme ça m'a fait rire, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce qu'au goulag, réellement, il n'y a pas de dépression?
Mais ayant passé personnellement 4 ans au goulag, non, c'est pas vrai.
Non.
Je ne suis pas documenté là-dessus.
Ah, vous l'avez inventé?
Bien sûr.
Ouais. D'accord.
Bien sûr.
Vous restez avec nous. On va parler musique avec Stéphanie Loire, Francis Weber. Ça s'appelle Le Tourbillon. C'est aussi un tourbillon musical qu'elle nous propose à tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Un beau texte, mais c'est trop de personnages.
Le Tourbillon, c'est Francis Weber qui parle de texte, de personnages, du talent comique, de lire le bottin. On est avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous.
Bonjour Francis. Bonjour. Vous allez nous présenter une sélection de nouveautés. Alors, paradoxe. Des nouveautés du côté des reprises. Quand
Exactement.
C'est une reprise, ce n'est pas une nouveauté.
Faire du neuf.
On est dans
l'oxymore
total ce matin. Allez-y.
Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter des covers. Alors, les covers, ce sont des chansons qui sont souvent des tubes revisités avec les arrangements d'un autre artiste. La cover, c'est un peu comme sortir avec quelqu'un qui ressemble physiquement à votre ex, mais qui n'a pas le même caractère, par exemple.
Hein, voilà. Ça sent le vécu. J'aurais jamais pensé à cet
pour
exemple.
Pour faire une métaphore gastronomique aussi, parce que j'aime beaucoup, c'est un peu comme savourer un plat traditionnel, des lasagnes, un gratin dauphinois, une blanquette de veau, mais revisité avec les épices et la sensibilité d'un autre chef. Alors parfois ça rate, on n'arrive pas à se défaire du parfum de l'original, et d'autres fois ça marche, on oublie le passé, on embrasse la nouveauté. J'espère que ça va être votre cas aujourd'hui avec ma sélection. On commence avec un duo, Mathieu Chédid, accompagné de la bassiste Gayle Anne Dorsey,
ouais.
qui est aussi chanteuse sur ce titre-là.
Exactement.
Accessoirement, qui a été la bassiste de David Bowie. Mmh. Un titre qu'on a entendu déjà dans Culture Média.
Mais je suis très très content d'en réentendre quelques notes, quelques mesures.
Tous deux ont signé une version très réussie du titre « À toi » de Joe Dassin, initialement publié en 1976.
À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
Ça, c'est un titre qui figure dans l'édition enrichie de l'album de Mathieu Chédid qui s'appelle Rivalité augmentée, dont la sortie elle est prévue pour le 25 novembre prochain.
Une autre cover qui convoque cette fois-ci Tété et Jérémy Frérot.
Rappelez-vous, Francis, en 2003, on était nombreux à tenter de chanter à la faveur de l'automne sans faire du yaourt.
Ah
sauf
oui, c'est
que
dur.
Le problème, c'est qu'on a tous tristement échoué. Le seul qui connaissait vraiment les paroles de cette chanson aux arrangements minutieux, c'était son interprète Tété. Eh bien, Tété, il va publier un nouvel album apparaître le 4 novembre prochain intitulé À la faveur des rencontres, un disque de duo dans lequel il revisite ses plus belles chansons avec d'autres artistes. Il a invité Jérémy Frérot à reprendre avec lui À la faveur de l'automne.
À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie.
C'est joli, c'est de circonstances en plus. Aujourd'hui, c'est l'automne, voilà.
Et puis, il y a une reprise acoustique que vous avez choisie, chantée par une chanteuse américaine dont je vous laisse prononcer le nom.
Heather Nova. Vous vouliez me tendre un piège?
Pas du tout, c'est que je ne sais pas comment ça se prononçait.
Heather Nova. Elle sera d'ailleurs en France dans quelques jours pour une série de concerts afin de célébrer ses 30 ans de carrière. Heather Nova, elle va y présenter un nouvel album entièrement composé de reprises dans lequel elle rend hommage à des artistes tels que Neil Young, Sting ou encore le groupe américain Journey. Vous connaissez Journey, Philippe ?
Oui, c'est un vieux groupe de rock FM des années 80.
Ouais, faisait une pop, non, plutôt de la pop, avec ce titre Don't Stop Believing que j'adore, qui est dans le dernier épisode des Sopranos, mais ça c'est autre chose. Ouais. Et là, c'est une version très dépouillée, tout en délicatesse. Je vous laisse la découvrir.
Just a small town girl living in a lonely world. She got a midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He got a midnight train going anywhere.
Elle chante.
Incroyable.
Elle a une très très belle
ça
voix.
Ça fait passer une bonne journée.
Wow. Bravo, super. Merci Philippe pour ce jeu de mots. Heather Nouvelle, elle sera en France pour 3 concerts à l'Alhambra à Paris le 8 octobre, à la Laiterie à Strasbourg le 18 novembre et le 19 novembre au 106 à Rouen.
Et enfin, pour conclure, pas de reprise, mais on me dit j'ai une découverte électro, ça s'appelle Quarto Mundo.
Ouais, j'aime beaucoup. Leur titre porte le nom d'un vent chaud qui vient du Sahara. Vous savez, ce vent chaud et sec.
Ah oui ?
Il est porté.
Quarto Mundo, je crois que ça voulait dire le quart monde, non ?
Non, mais le titre, attention,
ah,
le titre, pardon, je
le quart, d'accord.
Le duo, il est porté par un duo, c'est Thomas Laverne et un artiste chilien qui s'appelle Cosmo Gonic. Ils forment ensemble Quarto Mundo. Aye. C'est un binôme qui est très inspiré par les sons primitifs et qui ouvre notre appétit sur le voyage. Je suis sûre que ça va vous plaire, Francis Weber. Je vous propose de vous laisser emporter par leur single intitulé Sirocco. Une rencontre des rythmes égyptiens avec une mélodie à grosse connotation 60s, très psyché, sur fond d'électro. Qui pourrait être, qui sait, la bande originale truculente d'une comédie divine de Francis Weber.
Merci.
À Francis Weber.
Ah, beaucoup.
Ah ouais, j'en étais certaine. Et Philippe Vandel joue du piano, du air piano
jouait,
sur son...
En fait, c'était de l'orgue Farfisa.
Ah, pardon.
On a l'impression
voilà,
qu'on est dans une petite boîte d'orange. Avec le son. Et tu sais ce que ça m'a rappelé ? La flûte dans...
La flûte de Zamfir, bien sûr.
Ah, c'est vrai.
Magnifique.
C'est vrai qu'il y a une similitude.
C'est splendide. Le grand blond avec une chaussure noire, c'est bien ça.
Exactement.
Vladimir Cosma.
À la composition et Zamfir à la flûte.
Avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Ouais. C'est un beau compliment pour Quarto Mundo d'être comparé avec Vladimir Cosma.
Et qui disait de lui-même, parce qu'il est roumain, avec son accent, être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier.
Merci Francis Weber, merci
demain,
beaucoup
Philippe.
Stéphanie Loire. À demain pour d'autres, non pas des covers, mais des nouveautés.
Ouais.
Culture Média continue, on parle de ce tourbillon écrit par Francis Weber. À tout de suite sur Europe.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Le tourbillon, c'est la nouvelle pièce de Francis Weber, écrite par ses soins, mise en scène par lui. C'est au Théâtre de la Madeleine, c'est du mercredi au samedi à 21h. Et je vais donner aussi les jours pour le samedi et le dimanche. Il y a une matinée à 16h30, c'est avec Philippe Lelouch et Katrina Murino, entre autres. C'est une pièce qui se situe aujourd'hui. Est-ce que vous la faites évoluer au fur et à mesure de l'actualité qui évolue ? Parce qu'on a la chance que l'auteur soit vivant, contrairement à Molière ou à Racine. Non pas que je suis en train de vous comparer à Molière ou à Racine. Au moment où vous êtes là, vous pouvez ajuster au fur et à mesure.
Mon seul avantage, c'est d'être vivant, effectivement.
Voilà.
Non, en fait, vous savez, c'est une pièce évolue parce que cet acteur qui est le public vous dit quand il rit ou quand il rit moins. Et à ce moment-là, vous adaptez par petites touches et finalement, la pièce est ce qu'elle est au bout de 15 jours.
Donc, vous coupez quand ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que vous rajoutez des saillies en rapport avec l'actualité puisque vous suivez l'actu ?
Pas vraiment, parce que l'actualité est dangereuse. Il faut arriver en rampant dans le parcours du combattant pour échapper à la fois aux gens des réseaux sociaux qui sont par moments un peu violents et puis à tout ce qui est ultra de gauche ou de droite qui sont là avec des machettes pour vous hacher menu, vous voyez. Alors donc, je ne touche pas trop à l'actualité, mais je touche au mouvement de l'actualité, vous voyez.
Dans la pièce, il y a des télescopages avec l'actualité. Il y a un des personnages féminins qui a un œil au beurre noir. C'était bien, vous avez écrit ça bien avant l'affaire Quatennens.
Ah bah oui.
Et vous avez pas retiré ce passage-là.
Mais sûrement pas.
Alors, il y a aussi le contexte MeToo. 5 ans MeToo aujourd'hui, ça a démarré aux États-Unis dans le milieu du cinéma. Vous connaissez très très bien ce milieu puisque vous habitez une partie de l'année à Los Angeles, c'est bien ça.
Oui, oui.
Là où se fait le film, je vais citer Sophie qui est un personnage de la pièce. Elle dit « J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je rentrais dans le bureau de ce gros producteur américain, celui qu'on a mis en prison. » Évidemment, on pense tout de suite à Harvey Weinstein, ou Weinstein, pour prononcer l'américaine. J'imagine que vous l'avez rencontré.
Je n'ai pas rencontré exactement, mais il a produit... un de mes films, et on m'a demandé de lui écrire un petit mot gentil. Et j'ai envoyé à ce type, que je l'admirais énormément, parce qu'il aimait autant l'Europe que l'Amérique, et qu'il donnait sa chance à un Européen. Je ne savais pas que j'écrivais à un futur détenu.
vous dites, j'ai fait 31 films et 7 pièces, 7, le chiffre 7, mais je préfère le théâtre. Pour quelle raison ?
Parce que Gabin disait, le cinéma, tu as besoin d'une seule chose, une chaise. quand vous tournez un film...
On passe son temps à attendre, c'est ça ?
On attend.
Ah oui.
Enfin, on vous dit, bon, on va faire le contre-champ, va dans ta loge. Alors que le théâtre, c'est fascinant dans la mesure où vous prenez un acteur et vous le façonnez comme une pâte à modeler pour qu'il entre dans votre personnage, mais en continuité. Vous ne partez pas à votre loge toutes les 10 minutes. Vous avez un homme qui doit apprendre tout un texte d'une heure et demie et il faut arriver à lui faire dire votre musique à vous. Et c'est fantastique dans la continuité, justement.
C'est étrange que moi, j'aurais pensé que c'était exactement l'inverse du point de vue du metteur en scène, puisque justement, les acteurs attendent, passent leur temps à attendre sur des chaises que le chef-op et le metteur en scène, le réalisateur, aient fait les plans. Mais le metteur en scène, il travaille du matin au soir sur un plateau.
Oui, mais tout le monde attend au cinéma. C'est bien sûr, le patron, c'est le chef-opérateur.
Ouais.
Un peu moins avec le numérique, maintenant. Et quand on éclairait pendant des heures, vous voyez, j'ai eu des très grands chefs-opérateurs. J'ai eu Luciano Tovoli, le type qui a fait Profession Reporter, qui a fait tous ces... pain et chocolat.
Ouais, hein. J'explique pour les gens qui ne connaissent pas le cinéma, c'est-à-dire qu'on installe la caméra, on dit les acteurs seront là, et après on éclaire, et ça peut durer 2 heures, 3 heures. Si vous aviez Henri Alcan, ça pouvait durer 24 heures.
Ouais, formidable.
Formidable, oui et non.
Heureusement, et pas heureusement, parce que c'est un génie, mais j'ai pas eu Alcan. Hein.
Vous n'êtes pas du genre à pratiquer la fausse modestie. C'était dans Le Parisien, vous avez dit « c'est incroyable pour moi de faire un retour au théâtre ». Ma dernière pièce, ajoutez-vous, était mauvaise. Un animal de compagnie, c'est le titre de la pièce, était raté. Alors j'ai deux questions. Un, qu'est-ce qui n'allait pas ? Et pourquoi vous le racontez au journal ? Mais d'abord, qu'est-ce qui n'allait pas ?
Ce qui n'allait pas, c'est que j'ai pensé qu'un type qui se confiait à un poisson rouge, et immédiatement les animalistes se sont révoltés en disant « vous allez tuer ce poisson, on est obligé de faire un hologramme ».
Mais c'est ça, pas vrai. C'est,
bien sûr. Donc c'est pas trop grave ça, mais c'était pas un bon concept parce que si j'avais pris un ménate, par exemple, un ménate est un oiseau qui reconstitue parfaitement la voix humaine.
Bien sûr.
Je suis allé interviewer, quand j'étais radio-reporter, Michel Simon. J'arrive et sa femme de chambre me dit « Attendez, dans une antichambre. » Et j'entends « Bonjour. » Je dis « C'est Michel Simon. »
« Non. »
« Entrez. » Alors, j'entre, il n'y a personne.
Et c'était le ménate.
C'était le ménate, il y avait un oiseau. Le poisson rouge, lui, il est un peu morne en hologramme. Et ça ne fait pas une bonne pièce.
Est-ce que vous racontez dans ce récit, l'histoire en creux que vous racontez, c'est que le cinéma a bien changé, puisque quand on allait chez une vedette de cinéma, il y avait une femme de chambre. Alors que maintenant, il n'y a plus de femme de chambre chez les acteurs, ni chez les actrices, à part peut-être 3 ou 4 grands noms. Voilà ce qui n'allait pas. Et pourquoi raconter ça dans la presse ? Normalement, on ne dit jamais qu'on a raté une pièce. Je ne vous le reproche pas, au contraire, je suis admiratif, je dis waouh, ça va faire une bonne question.
Je suis ravi d'avouer mes échecs, vous savez. La seule interdiction, c'est de s'aimer dans ce métier. Quand vous êtes peintre du dimanche, par exemple, que vous peignez quelque chose qui ressemble à un sexe, et vous dites ça, c'est la falaise d'être tard, vous aimez ce que vous faites. Quand vous êtes écrivain et que vous voyez que ce que vous avez fait n'est pas tout à fait à la hauteur de vos ambitions, reconnaissez-le, ça vous permet d'évoluer.
Vous avez des ennemis dans le métier ?
Quand on a du succès, toujours.
Parce que sur cette même pièce, juste comme ça, pour citer un exemple, vous dites « j'ai pas non plus été servi par la distribution ». Vous dites, vous ajoutez Stéphane Frey, je ne veux pas dire du mal de lui, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est que vous ne choisissez pas vos comédiens.
C'est compliqué pour moi dans la mesure où je passe un bon moment à Los Angeles tous les ans et que les comédiens ont changé. Les miens sont maintenant soit morts, soit obèses. Je ne dirai pas de nom.
Ouais.
Mais je regrette mes comédiens, mais Billy Wilder disait, il ne faut pas vieillir avec ses comédiens.
Ouais.
Donc vous êtes obligé de prendre des jeunes. Mais et les jeunes, ils sont sur des séries télé. Et quand je suis en Amérique, je vois les séries télé américaines. De temps en temps, des grandes séries télé françaises. Par exemple, les 10% formidables.
Non, mais il y a plein de jeunes...
Bureau des légendes, tout
bien
ça.
Bien sûr, mais je vous interromps juste sur la question... Je reviens à la question d'avant. Il y a plein de jeunes comédiens qui ont du talent, ou non ?
Énormément.
Vous pensez qu'il y avait une génération d'acteurs que vous avez connus qu'on ne retrouvera plus jamais ?
On ne peut pas dire ça, vous savez. C'est parce que je pense que des gens comme Audrey Fleurot, des gens comme ça... Et Ducret, Arnaud Ducret, etc., sont des gens qui ont beaucoup de talent. Ce qui manque peut-être, c'est les scénaristes.
Ah oui. C'est là où ça pêche, selon vous, dans le cinéma français.
Oui. Parce que c'est très difficile, un scénario. Et les Américains disent « écrire, c'est réécrire ». C'est pour ça que je vous parlais du fait que je réécris en ce moment un peu le tourbillon, par-ci, par-là, vous voyez. Parce que je vois qu'il y a des trucs qui clochaient. Et dans le temps, on avait une semaine de tournée en province pour vérifier ce qui allait et ce qui n'allait pas. Les acteurs sont trop pressés maintenant pour le faire. Avec le retard pris par la Covid, ils ont plein de trucs qui reviennent, qu'ils doivent faire, et vous ne les avez pas avant le début du spectacle.
Vous êtes pendant combien de temps à Paris pour aller voir le tourbillon ? Vous êtes tous les soirs dans la salle ? Comment ça se passe ?
Je suis tous les soirs dans la salle, oui. Oui, parce que je vois à peu près, je vous dis, Le public, c'est le plus grand acteur de la pièce. Et moi, je vois, quand j'écris un scénario, par exemple, pour revenir au cinéma, je réunis 4-5 copains à moi et je lis. Or, comme j'ai à peu près la même voix quand je faisais des flashs d'informations, la seule façon...
Je souris parce que je vais expliquer. Hors antenne, Weber nous a expliqué qu'il a démarré à la radio. Il faisait des flashs radio. Il disait, j'avais une voix tellement... J'endormais les gens et j'espère qu'il n'y ait personne en voiture qui s'est pris un platane en m'écoutant et que je l'ai endormi. Voilà pourquoi je me marre.
J'ai des remords, quoi. Ouais. Même si c'est un petit peu...
Donc, vous lisez vos films à vos potes.
Et je ne sais pas ce qu'ils me disent, ce qui m'intéresse. C'est quand leur regard s'en va. Mmh. Et c'est terrible parce que vous êtes en train de dire... Alors, Clara, tu m'aimes, oui, je t'aime, etc. Et tout à coup, les types regardent le plafond ou les filles regardent le plafond.
Et là, vous sentez qu'il faut réécrire.
Ah, ben oui.
Que vous l'avez perdu.
Eh oui.
On ne perd pas Francis Weber, il reste avec nous. On va parler de série. C'est un remake de Sissi. Vous vous souvenez de Sissi?
Ah, ben bien sûr.
Romy Schneider.
Bien sûr.
Romy Schneider. Si tu nous écoutes, c'est Héloïse Goy qui nous rejoint. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Francis Weber, le tourbillon, c'est aussi le tourbillon de la réécriture. Il citait les Américains qui disaient écrire, c'est réécrire. Vous allez voir qu'on est dans le sujet. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour Francis Weber.
Bonjour.
Vous nous parlez, Héloïse, d'une toute nouvelle série consacrée à Sissi. Et c'est loin d'être la première série sur cette fameuse impératrice.
Bah oui, mais il n'y a jamais trop de Sissi dans la vie, Philippe.
Non.
L'impératrice Elisabeth d'Autriche fascine et fait vendre. Il y a eu, bien sûr, vous en parliez tout à l'heure, la célèbre trilogie de films d'Ernst Marischka avec Romy Schneider qui a bercé nos vacances de Noël.
Et qui repasse tout le temps. Et qui repasse tout le temps et qui fait tout le temps des cartons à Noël.
Exactement, qui continue de nous bercer. Plus récemment, TF1 a diffusé une série qui nous montrait une Sissi plutôt coquine et féministe. Il y a aussi le film Corsage de Marie Kreutzer qui sortira au cinéma en décembre prochain. Là, ce sont des Allemands qui nous proposent une nouvelle version de l'histoire avec la mini-série dont je vous parle aujourd'hui qui s'appelle tout simplement L'Impératrice. En VO, ça donne Die Kaiserin.
Die Kaiserin. Die, c'est en anglais. Ça
Mais alors, c'est
mourir.
Kaiserin.
C'est possible, en tout cas, on dit ça.
Parce qu'on dit Kaiser, je crois.
Voilà.
Alors, cette version est moins kitsch, moins romantique que tout ce qui a déjà été fait. C'est ce qui la rend chouette. La série nous montre davantage l'envers du décor. Elle dépoussière un peu ce mythe et c'est plutôt réussi.
Alors, à quelle époque de la vie de Sissi se passe la série? Parce qu'on a tous l'image de Romy Schneider. Donc, sortir de ça?
C'est ça. Le premier épisode s'ouvre en 1853. Elisabeth a 16 ans. On reste donc sur une Sissi jeune. Elle accompagne sa sœur Elena qui doit rencontrer son futur fiancé, l'empereur François-Joseph. Mais le jeune homme tombe immédiatement sous le charme de Sissi, qui trouve plutôt l'empereur à son goût. Les deux se marient. Et là, c'est un peu le début des ennuis. Bien qu'elle soit très amoureuse de son mari, Sissi a beaucoup de mal à se plier à l'étiquette de la cour de Vienne, qui est l'une des plus rigides d'Europe.
Toutes ces chaussures.
Une impératrice ne porte jamais deux fois la même paire. Elle sera jetée chaque jour.
C'est du gaspillage.
C'est le palais de Schönbrunn. Tous les matins et tous les soirs, l'impératrice prend un bain de 2 heures. Les cheveux doivent être peignés et tressés chaque jour. À cette fin, vous ne vous baignerez que dans un mélange de lait d'anès et de poivre des moines. Cela favorise également la fertilité.
C'est pas une vie qui fait rêver, hein.
Non, c'est pas ça. Je pensais au fait qu'il y a peut-être un petit anachronisme. Parce que c'est du gaspillage. On a l'impression que c'est...
C'est écolo.
Ouais, c'est une ligne écrite en 2021 pour 1853. Je sais pas si le mot existait à l'époque. Gaspillage.
Je sais pas. En tout cas, c'est traduit. Je sais pas comment c'est dit dans la version originale. En tout cas, cette vie ne fait pas du tout rêver l'impératrice qui n'est pas du genre à obéir au doigt et à l'œil. Et la série se concentre surtout sur les premières années de Sissi en tant que souveraine. Du coup, j'espère qu'il y aura une saison 2. Dès ses débuts à la cour, on y voit une jeune femme qui refuse de n'être qu'un ventre à héritier. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, elle donne son avis sur tout, y compris en politique.
Le fils du tsar rentre d'un voyage en Hesse et traverse la Bavière. Si nous lui envoyons un message, il pourrait être ici en fin de semaine.
C'est bien trop court pour tout organiser. Nous devons reporter la rencontre.
Il est hors de question de recevoir le fils du tsar dans des conditions indignes.
Peut-être pouvons-nous organiser quelque chose de plus intime.
Mon père emmenait ses invités à la chasse pour discuter de sujets importants.
Si vous voulez discuter en paix, Franz, sans tapage, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
Alexandre doit comprendre qu'on ne cherche pas à l'impressionner.
Alors l'empereur va écouter sa femme, et là c'est qu'un exemple parmi mille, mais autant vous dire que cette audace et cette désobéissance quasi permanente de Sissi commencent sérieusement à agacer sa belle-mère qui ne se gêne pas pour lui dire assez fermement.
Par moments le mal doit être extrait, que cela nous fasse souffrir ou non.
Et quel mal doit être extrait si urgemment?
Je voulais que Franz trouve une femme qui le soutienne.
Vous vouliez surtout une marionnette.
Je veux une souveraine qui arbore fièrement notre couronne, qui privilégie le bien-être de cette famille par-dessus tout. Partout autour de nous, des royaumes s'effondrent. Nous avons besoin d'une impératrice qui nous sauve du péril qui nous guette. Tu n'es pas cette personne, Elisabeth.
Timo, c'est assez rare pour te signaler. Je trouve que la version française fonctionne très très bien.
Je suis d'accord, c'est très bien doublé. Ouais. Les comédiens sont très bons.
Mais ça raconte une autre histoire que celle qu'on connaît. Ou est-ce que c'est la même histoire racontée différemment ?
Sur Sissi ?
Oui.
Je vous dis, on nous montre une Sissi un peu décorsetée. Mmh. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'elle ne nous parle pas que de Sissi. Les épisodes ancrent ce personnage dans un contexte géopolitique compliqué pour l'Empire des Habsbourg. À ce moment-là, la colère du peuple autrichien gronde parce qu'il a faim. Les frontières sont menacées et le frère de l'empereur est prêt à toutes les trahisons pour se frayer une place au pouvoir. Ce que j'ai aimé, c'est que la série s'éloigne vraiment du conte de fées. Contrairement au film avec Romy Schneider, elle fait sauter les corsets, je vous le disais, avec une Sissi insolente qui veut être maîtresse de sa vie et qui souffre de sa vie à la cour. On nous montre une Sissi assoiffée de liberté et assoiffée tout court d'ailleurs. On la voit régulièrement s'enivrer à l'absinthe et au champagne. Non. C'est un peu plus rock'n'roll que la version de Romy Schneider. Alors, dans la lignée de The Crown, les décors et les costumes sont somptueux. Si vous aimez les robes à crinoline, vous allez être servi. Et la jeune Allemande de 24 ans seulement, qui incarne l'impératrice, joue son rôle à la perfection. Elle s'appelle Devrim Lignot. Elle a d'ailleurs un petit air de Romy Schneider en brune. Ouais. Alors, si vous pensez avoir déjà tout vu sur Sissi, vous risquez d'être surpris avec cette belle fiction, cette belle réécriture de l'histoire. Vous risquez aussi d'attendre avec impatience la saison 2. Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur la personnalité et la vie mouvementée de cette femme, il y a un documentaire passionnant qui vient d'arriver sur arte.tv, ça s'appelle Sissi, la douleur et la liberté.
Francis Weber, ça vous tente cette Sissi alcoolo et décorsetée?
Je suis en train de préparer une Sissi transgenre, moi. Alors.
Blague à part, est-ce que ça vous intéresse?
Mais je trouve ça formidable, parce que d'abord j'aime que les gens aiment ça, parce que mes fils adorent ça. Non, ça me plaît, tout ce qui est réussi me plaît, évidemment.
J'ai oublié de vous poser la question, Héloïse. Le documentaire, il va passer sur Arte. La série, on peut la voir où ?
C'est sur Netflix. 6 épisodes, ça se regarde très vite.
Merci beaucoup, Héloïse Goua. À très, très vite. Vous restez avec nous, Francis Weber. Culture Média continue. C'est la dernière ligne droite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Francis Weber, cette pièce écrite et mise en scène par vous, c'est un work in progress, comme disent les Américains. Le tourbillon, c'est au Théâtre de la Madeleine, du mercredi au dimanche. Il y a des matinées aussi le samedi et le dimanche. Je vais parler de cinéma. Combien même dites-vous, vous préférez le théâtre au cinéma? Je voulais juste dire que vous étiez passé à la réalisation en 76 avec le film Le Jouet, avec Pierre Richard. Le film va faire l'objet d'un remake. Voici pourquoi j'en parle, avec Jamel Debbouze dans le rôle qu'occupait Pierre Richard. Vous en attendez quoi? Parce que vous n'avez pas que des bons souvenirs avec les remakes.
Non, j'en ai fait deux et c'était pas bon. Mais c'est bon de savoir. Ma femme a dit un truc très juste. Pourquoi faire un film de 3 heures avec un film d'une heure et demie? Et c'est vrai, vous essayez de tirer sur un truc, alors que les Américains ont trouvé un truc, ils font ce qu'ils appellent des prequels. C'est-à-dire que le para numéro 2, c'est ce qui se passe avant. Vous voyez. Mm-hmm. Et c'est presque meilleur que le para numéro 1.
Vous dites avoir essayé de refaire... Plutôt, vous l'avez fait, mais vous l'avez raté, dites-vous, un remake de L'Emmerdeur. Vous étiez planté.
C'était catastrophique, parce que j'ai eu l'impression de faire de la profanation de sépulture. C'est-à-dire que j'ai déterré Lino Ventura et Jacques Brel, qui étaient absolument géniaux, pour les remplacer par de très bons acteurs qui étaient Tim Seat et Berry. Mais on m'a reproché, évidemment, d'avoir fait ce sacrilège.
Voilà. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que normalement, on dit une histoire, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Vous avez deux bons comédiens avec une bonne histoire. Pardon. Votre connaissance, ça devrait fonctionner. Non, les gens qui se lancent dans Le Jouet avec Jamel Debbouze, ils y croient.
Ils ont raison d'y croire. Mais en tout cas, moi, je sais qu'on ne pouvait pas concurrencer Ventura et Brel. Parce que Ventura était le contre-champ de comédie idéale. C'est fantastique. Mmh. Et je raconte que j'ai rencontré sur le plateau à Montpellier Ventura et Brel, parce que ça se tournait à Montpellier. Hein, et je voyais Ventura dans un coin du plateau en train de faire répéter Brel. Et je me suis approché, après qu'ils aient fini, et j'ai dit, mais Lino, c'est généreux ce que tu fais, c'est formidable. Et il m'a dit, avec la tête de Lino et la voix de Lino, quand tu fais un match avec un lutteur qui t'arrive au genou, tu fais un mauvais combat.
Et donc vrai, il le soulevait, il essayait de le mettre à sa hauteur.
Mais c'est beau déjà.
C'est magnifique. Il y a peu de gens qui savent ça, vous avez été script docteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive et qui améliore les scénarios. Et le film Le Grand Bleu, très peu de gens le savent, et Louise Gouin ne le savait pas. Moi non plus, je ne le savais pas avant de préparer cet entretien. Le film Le Grand Bleu vous doit beaucoup. Et vous n'êtes pas crédité au générique.
Non, mais c'est ça le script docteur. Enfin, le type qui fait une consultation n'est pas crédité. Je me rappelle, Gaumont m'a appelé. Parce que le scénario de Besson ressemblait à un camembert sans boîte. Il coulait de tous les côtés, vous voyez. On me dirait que dans la mer, c'est pas mal. Ouais. Mais toujours est-il donc Il était très inquiet de me voir prendre son affaire en main, Besson. Le vieux vaudevilliste qui arrivait sur les abysses, ça ne lui plaisait pas du tout. Et je lui ai juré que quand il sera en apnée, ces personnages, il n'y aura pas de dialogue.
Et vous avez créé la rivalité entre Jean Reno et Jean-Marc Barr, qui n'existait pas à l'origine.
Vous savez, j'ai fait mieux, c'est-à-dire que j'ai réécrit Le Professionnel complètement.
C'est pas vrai.
De la première à la dernière ligne.
C'est pas vrai.
Mais si Audiard avait signé le premier scénario, et il n'était pas content, Belmondo, on m'a appelé. Je me rappelle, alors, il y avait l'aréopage avec le producteur, Belmondo, Audiard d'ailleurs. Et on m'a dit, comment vois-tu le sujet? Parce que j'en avais parlé à Lautner en disant, c'est formidable. Il m'a dit, je vois pas ce que tu trouves de formidable là-dedans. Il y avait le scénario d'Audiard. Et me disant, moi j'étais jeune, je me dis, je ne vais pas taper sur cette légende qui est Audiard. Je dis, Michel, est-ce que je peux te parler une seconde? Il m'a dit, ouais, avec sa gapette et sa ego, comme ça. Non. On arrive dans un bureau à côté, je dis, je ne peux pas me permettre de rewriter une chose que tu as faite. Alors ce qu'on va faire, on va revenir dans le bureau avec les producteurs et Belmondo et dire que tu vas faire la deuxième mouture. Ben non, tu peux y aller, vas-y, etc. On arrive dans le bureau et je commence à dire, voilà. Ça ne va pas. Et je voyais qu'il dessinait sur un papier. Et à la fin, j'ai remarqué qu'il avait déchiré le papier avec la bille de son stylo. Tellement c'était affreux d'avoir un type comme moi, qui était un jeune auteur, casser son jouet. C'est affreux comme truc.
Incroyable. Autre anecdote, vous avez eu un César.
Oui.
Vous n'êtes pas allé le chercher.
Non.
Pourquoi?
Trop lourd. Non, en fait.
En fait,
j'étais à 12 000 km. Bon, moi, j'ai eu le César.
Il y a plein de gens qui prennent l'avion.
Non, mais il y en a d'autres en Amérique à qui on paye l'avion. Quand vous avez un César, on vous dit venez, on vous invite.
Attendez, vous n'êtes pas venu parce qu'il fallait payer le billet d'avion et ça vous a vexé?
Pas vraiment, mais je me suis dit je ne l'aurai pas de toute façon. Parce qu'ils ne vous garantissent pas. Parce que c'est vraiment une comédie, dans les compétitions officielles, je suis passé après La vie rêvée des anges, de Zonka. Avec le dîner de cons, j'aurais dû écrire La vie rêvée des cons.
Ce rire, c'est celui de Julien Vignali et Mélanie Gomez qui nous ont rejoints. Merci beaucoup, Francis Weber. Si vous demandez à quoi ça ressemble la plume de Weber quand il écrit des dialogues, ça ressemble à ça. Et là encore, il était en impro, donc imaginez quand il a travaillé. Merci d'avoir été avec nous. Ouais. Ça s'appelle Le Tourbillon, cette pièce. Avec Philippe Lelouch, Catherine Amorino, c'est au Théâtre de la Madeleine. Merci d'avoir été avec nous, Francis.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le PDG de l'ONG Reporters d'Espoir qui se lance dans la publication d'un magazine ultra positif, mais un magazine de solutions en version papier, on verra pourquoi. Et puis Caroline Roux qui présente C'est dans l'air, car elle propose une émission spéciale consacrée à la Russie, à l'Ukraine, à la guerre. Vous allez dire, ah oui, encore la guerre et l'Ukraine? Non. Une autre facette au cœur de la galaxie cyber entre virus informatiques et hackers. Et puis la truculente comédienne et humoriste, on peut la reconnaître en trois syllabes, Chantal Latsou. Elle incarne elle est dans une nouvelle comédie de boulevard, s'appelle 1983, qui nous plonge au cœur des années 80, autant dire au cœur de ma jeunesse. Julia Vignali, bien fait pour vous, le programme du jour est d'abord bonjour.
Bonjour Philippe, alors aujourd'hui on va parler de gras, vous savez celui qui nous fait du bien dans l'assiette. Est-ce que vous
il
êtes
en a
plutôt...
pas, Weber il en a pas, non, il est arrivé, je dis mais comment tu fais pour être sharp comme
mais
ça.
Mais il en mange, est-ce que vous êtes plutôt huile d'olive, beurre doux, beurre salé?
Huile d'olive.
Ah ben voilà, c'est très bien. Il paraît qu'il faut varier les huiles dans notre alimentation. C'est bon pour notre santé. Quelle est la bonne dose? Faut-il privilégier les graisses animales, les graisses végétales? On sera vraiment dans la conso, dans l'assiette aujourd'hui.
Oui, on sera dans l'assiette et notamment avec le CBD. Je ne sais pas si vous goûtez au CBD.
Du tout, moi j'ai jamais fumé.
Mais il s'agit pas de fumer. C'est d'un point de vue gustatif. On peut rajouter du CBD.
C'est
dans...
pas vrai.
Mais oui, on va
le CBD,
dans...
c'est le principe non drogant du cannabis. C'est ça.
Exactement.
C'est celui qui n'est pas hallucinatoire ou hallucinogène.
Exactement. C'est très à la mode et ça fait beaucoup de bien.
Ça sert à rien. Il a raison.
Si, il y a plein de bienfaits.
Prendre un aphrodisiaque qui ne t'excite pas, c'est absurde.
Je vous raconterai l'histoire du Viazac une prochaine fois. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain, 9h.